Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, puisqu'il est né, avec elle, soyez plein d'allégresse, vous qui portiez son deuil, ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Frères et sœurs, ces quelques mots sont proclamés par le prophète Isaïe dans le tout dernier chapitre du livre qui porte son nom. Il célèbre ainsi avec force et enthousiasme l'œuvre de miséricorde que le Seigneur a réalisée en faveur de son peuple. Ces mêmes mots ont été choisis pour introduire la liturgie de ce quatrième dimanche du temps de Carême et pour lui donner son nom, le dimanche de la joie, dont la couleur rose est un signe discret mais déjà visible. La joie irrigue peut-être le début de nos La joie éclaire l'horizon qui apparaît devant nous. La joie est précieuse et solide, car elle vient de Dieu lui-même qui agit par grâce envers ses enfants, éprouvés par le drame et l'angoisse du mal et du péché. Cette joie, en effet, ne s'impose pas d'elle-même en premier lieu. Et les expressions ne manquent pas qui expriment durement les erreurs passées dont les hommes se sont rendus coupables, les impasses qu'ils ont préférées au chemin que Dieu leur a donné, les fardeaux accumulés au gré des renoncements et des trahisons. Ainsi, le peuple des Hébreux a-t-il imité toutes les abominations des nations païennes, avons-nous entendu dans la première lecture, tandis que Jésus leur reprochera d'avoir préféré les ténèbres à la lumière. Ces différentes expressions posent clairement la question du mal et du péché. Plus qu'une question, il s'agit d'un véritable mystère. Pour quelle raison, sans doute multiple et parfois obscure, l'homme choisit-il de s'abandonner au mal dont il connaît cependant les conséquences néfastes et douloureuses? À ce sujet, il n'est pas vraiment utile d'élaborer une théorie que nous savons. Il suffit, en quelque sorte, de contempler avec humilité notre propre expérience, au creux de laquelle nous sommes en lutte contre le péché qui nous presse et qui nous hâte, y compris lorsque nous tentons d'y échapper. Il peut même arriver que nous soyons tentés de renoncer devant l'ampleur du défi et l'exigence du combat. La question se pose alors de savoir si la recherche de la grâce et de la vérité n'est pas perdue d'avance. Les esprits pessimistes, ceux qui désespèrent de la nature humaine, portent sur elle un regard sévère et désabusé, n'auraient-ils pas finalement raison? Qu'avons-nous de sérieux à leur répondre? C'est que la réponse, ou du moins la perspective, ne se situe précisément pas dans les seules limites de la raison humaine, ni dans celle de notre compréhension du monde. Par l'une de ces formules géniales et magnifiques dont il a le secret, saint Paul nous annonce que Dieu est riche en miséricorde. Or, une telle profession de foi peut être accueillie dans la mesure où la miséricorde de Dieu s'est déjà manifestée avec éclat autour de l'histoire du salut. Histoire secouée et tumultueuse, histoire tantôt proche du désastre et tantôt renaissante. D'une manière assez prononcée, l'auteur du livre des Chroniques, que l'on date habituellement du 5e siècle avant la naissance du Christ, décrit cette histoire pleine de richesse et de rebondissement. Malgré le nom de l'Alliance et la promesse de la communauté, Le peuple s'est éloigné de son Dieu par des infidélités répétées, par des attitudes opposées à la foi qu'il avait reçue, par des connivences obscures avec les animaux païennes, par des moqueries, voire de mauvais traitements infligés au prophète qui venait l'appeler à la sagesse et à la conviction. Surgit alors un désastre que nul n'avait pu imaginer, l'invasion de la Terre Sainte par les troupes ennemies, la destruction du temple et de la ville de Jérusalem, la déportation d'une part importante de ce peuple. Un peu plus tard, les croyants seront capables de discerner dans ces malheurs le signe de la présence de Dieu qui ne leur a jamais manqué. Et c'est ainsi qu'ils découvriront, surpris, la profondeur de la miséricorde qui fait passer de la détresse à la consolation et de la tristesse à la joie. Dieu est riche en miséricorde. Il est bon de laisser retentir une nouvelle fois ces quelques mots qui concentrent l'essentiel de la foi chrétienne. En effet, grâce à Jésus, le Christ, la miséricorde de Dieu a pris visage humain. Dès lors, elle n'est plus seulement accessible à travers des événements ou des paroles, mais elle rayonne une personne en qui nous reconnaissons l'envoyé du Père, le Messie. À Nicodème, qui vient le trouver de lui par crainte des humains, Jésus lui-même révèle ainsi le mystère de la foi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le grand projet de Dieu est porteur de vie pour les hommes, pour chaque homme en particulier et pour l'humanité tout entière. Rien ne vient de Dieu qui conduit à la mort. Tout est donné par lui pour que nous vivions, dès maintenant et jusque dans l'éternité. La démarche du carême nous encourage à nous rendre disponibles pour accueillir la vie de Dieu au-delà de nos résistances, de nos propres déceptions et de nos inquiétudes. Cette vie de Dieu nous apporte la joie qu'il fait abonder et surabonder. Il peut arriver que cette joie semble assez lointaine, parfois même absente ou évanouie, et pourtant, rien ne pourra avoir raison de cette joie intime, la joie de nous savoir aimer de Dieu, la joie de nous savoir choisi par lui et bénéficiaire de sa confiance. Amen.